Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur 48 FM, il est 13h, ce journal vous est présenté par Régis Théodore.
Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de ce journal. La commune de Liège et d'Herstal envisage une fusion, Élodie Petitpas nous en dira plus. Avec un arrêt de subsides imminent, les jeunesses politiques voient rouge. Après Liège, l'histoire se répète, les conférences du MR ne sont plus les bienvenues. Des enfants découvrent le compositeur André Gretry à l'Opéra de Liège. On clôturera ce journal par du sport présenté par Tom Gerd. La fusion entre les communes de Liège et d'Herstal est une réelle possibilité. Élodie, pourquoi ces communes envisagent-elles de se rapprocher ?
Eh bien, c'est surtout pour des raisons financières. Les deux communes sont sous plan de gestion et bénéficient actuellement d'un emprunt pour équilibrer leur budget, comme le prévoit le plan Oxygène, un dispositif de la région Wallonne. L'idée est bien sur la table, comme le confirme au journal Le Soir Frédéric Dardenne, bourgmestre d'Herstal, mais rien de concret n'a encore été établi. Les bourgmestres des deux communes concernées sont rentrés en contact. Ils envisagent tout d'abord un rassemblement des forces de police, une première étape pour voir où cela les mènera.
Si la fusion a bien lieu, qu'adviendrait-il de la commune de Liège ?
Elle deviendrait tout simplement la plus grosse commune en Wallonie, une place qu'occupe actuellement Charleroi. En regroupant les quelques 200 000 Liégeois et les 40 000 habitants de la commune d'Herstal, la nouvelle entité regrouperait près de 240 000 habitants. Mais si cette fusion avait bien lieu, des questions se poseraient, en particulier sur la fonction qu'occuperait Christy Montréal. La présidente du PS au Parlement wallon est aujourd'hui pressentie comme la future bourgmestre de Liège. On pourrait cependant s'attendre à ce que Frédéric Dardenne veuille rester en tête de liste de cette commune fusionnée.
Merci Élodie, on reste sur de la politique. Les subsides pour le financement des jeunesses politiques vont s'arrêter dès 2027. Louis Noël.
Oui, et cela pose problème, Régis, parce que ces subsides représentent 100% de leur financement. Tanguy Delporte, le président des jeunes socialistes au National, nous explique quelles seront les conséquences de cette réforme.
Nous, on va devoir se séparer des employés, comme on n'aura plus leur subside. Au vu du montant, on ne peut pas se permettre. Nous, hélas, on n'a pas ce montant-là sur nos comptes annuellement, donc on n'a pas ce montant-là tout court, en fait, au final. Donc on ne sera plus financé ce point-là. Et au niveau du subside de fonctionnement, oui, en effet, on va devoir se séparer déjà de notre local et de tout un tas de choses qui vont nous obliger à faire des économies pour lever un peu le pied au niveau de notre façon de vivre, parce qu'on perd tout du jour au lendemain, donc c'est clair que c'est un peu compliqué.
Et c'est encore plus problématique une fois qu'on comprend leur fonction dans la société.
Ben, on a un rôle aussi d'éducation permanente, on forme des jeunes sur nos différentes thématiques. On a aussi un rôle de contre-pouvoir, au-delà du fait de dire « oui, la vie du parti, il est sympa, il est génial », nous, on a aussi notre propre avis, dans le sens où s'il y a une thématique, imaginons sur l'enseignement supérieur, il y a une mesure que le parti nous propose et qui ne nous plaît pas, nous, on n'hésite pas non plus à sortir sur les réseaux sociaux en disant « écoutez, voilà, nous, on n'est pas d'accord avec ça ».
Et pour survivre, les jeunesses devront s'adapter. Olivier Heublet, président de la Fédération provinciale des jeunes MR de Liège, est en train de réfléchir avec son parti à différentes solutions.
Il va falloir trouver des nouvelles sources de financement, c'est un gros enjeu. On peut penser à une cotisation au sein des jeunes avec un système où les membres devraient mettre un petit quelque chose. Il y a aussi l'idée que le parti auquel nous sommes liés, donc le MR, puisse prendre en charge aussi sa branche jeune. Ça pose des questions en termes de d'indépendance des idées, etc. Mais je pense que ce qui nous relie, c'est le libéralisme. Donc on se dit jeune MR, donc est-ce que ça pose vraiment un problème qu'il y ait ce manque d'indépendance avec le MR ? Enfin voilà, c'est toutes des questions auxquelles il faut trouver des réponses. C'est pas simple du tout et donc des gens qui y travaillent pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses.
Et il reste 2 années aux différentes jeunesses politiques pour s'adapter à cette situation inconfortable.
Merci Louis pour ces explications. Passons aux actualités d'aujourd'hui. Climat tendu hier soir à Saint-Gilles, à Bruxelles. Une conférence du MR a suscité un important rassemblement, comme lors de l'hommage à Jean Gol. 150 policiers ont été déployés pour contenir les 200 personnes rassemblées. Elles avaient répondu à l'appel du front antifasciste bruxellois. Dès 19h, la tension est montée. La police est intervenue pour contenir le cortège et empêcher les manifestants d'approcher la salle. Un acquittement qui ne passe pas. Le maître d'Arès, ce chien mort après avoir été traîné par la laisse de sa voiture, a été innocenté, la justice ayant conclu à un accident. Au sein de la population, la tension ne retombe pas. Les menaces à son encontre se multiplient au point de renforcer sa surveillance policière. Alors que les bombardements russes sur l'Ukraine continuent de se durcir, une proposition américaine de plan de paix provoque un tollé. Selon certaines sources, le plan exigerait que l'Ukraine cède des territoires à Moscou, y compris la Crimée, et accepte la réduction de son armée à seulement 400 000 soldats. Les droits de l'enfant sont mis à l'honneur aujourd'hui. Ce 20 novembre, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant. Une date qui rappelle que chaque enfant doit être protégé pour pouvoir aller à l'école et grandir dans un environnement sûr. En Belgique, les droits de l'enfant sont une compétence de l'Office de la naissance et de l'enfance. L'ONE, elle a un rôle primordial pour les enfants et les familles. Sylvie Anzalone, porte-parole de l'ONE.
Les deux plus grandes missions, c'est l'accueil de l'enfant en dehors de sa famille et qui participe bien entendu à ce que les enfants soient accueillis de manière sécure. Et puis, vous avez l'autre mission, c'est l'accompagnement de l'enfant avec leurs parents et en général, on les connaît bien avec les consultations d'enfants, les visites à domicile, les consultations prénatales.
Est-ce que vous avez constaté une augmentation des problèmes rencontrés par les enfants et est-ce que pour vous, cette journée est importante?
Alors évidemment, la journée des droits de l'enfant, c'est un moment assez phare pour l'ONE. C'est l'occasion de rappeler l'importance de ces droits-là, parce que effectivement, les équipes sur le terrain, qui sont en contact direct avec les familles, ramènent un nombre croissant, en tout cas, de difficultés, et des difficultés qui sont beaucoup plus complexes qu'auparavant.
Une interview de Louis Noël. L'Opéra Royal de Liège met à l'honneur le compositeur liégeois André Grétry. Ses compositions sont reprises dans l'opéra « Lucile et les pages perdues » de Grétry. Des œuvres adaptées pour les plus jeunes, comme va vous le faire découvrir Élodie Petitpas.
C'est dans une petite salle située au-dessus de la salle d'opéra de Liège que se tient cette représentation. Un endroit plus adapté aux spectateurs de cet après-midi, essentiellement composé d'enfants. Pour correspondre à ce public, les œuvres de Grétry ont dû être modifiées, comme l'explique le metteur en scène Quentin Westales.
Les paroles ont été changées, je les ai réécrites par rapport à l'histoire pour que ça puisse coller justement. Sinon, c'était un peu compliqué d'avoir un fil rouge cohérent pour les enfants. Donc, ce n'est pas l'œuvre originale. Tout ce qu'on n'a pas touché, c'est les notes de musique de Grétry, ça, on n'y a pas touché. L'enfant est au centre de cette création parce qu'en plus de tout ça, il fallait qu'il puisse s'amuser, être diverti, pouvoir être aussi. Attiré à gauche, à droite, il y a des bulles, il y a des effets de lumière, il y a un jeu d'épée, il y a une danse.
La réalisation d'opéra destinée aux enfants est essentielle selon le metteur en scène.
C'est très important de pouvoir leur donner un premier aperçu de ce que c'est la musique, de ce que c'est l'opéra, de ce que c'est quelqu'un qui chante avec cette technique-là, parce que ce sont peut-être le futur public de l'opéra d'ici 20 ans.
Une initiative qui enchante des parents soucieux de faire découvrir ce milieu artistique à leurs enfants.
L'histoire reste accessible pour les enfants, donc c'est vraiment une bonne façon de découvrir la musique et l'opéra. C'est important pour moi de lui faire découvrir toutes sortes de musiques.
Les enfants sont quant à eux conquis. C'est le cas de Charlotte, 6 ans.
C'était très cool. Les hommes chantaient mieux que les femmes parce qu'elles chantent d'une grosse voix, les femmes.
Des représentations auront lieu jusqu'au 22 novembre.
Et on passe tout de suite à la rubrique sport avec Tom Gerd. Le port obligatoire du casque pour les gardiens de football est de plus en plus discuté.
Oui, certains clubs obligent déjà les jeunes gardiens à porter des casques, comme Genk. Dans notre province, d'autres commencent à le considérer, comme Liège, qui pensent imposer dans le futur les casques à ces jeunes gardiens. Mais la majorité des clubs disent, eux, attendre une obligation de la part de la fédération. En tennis, le futur adversaire de la Belgique pour la demi-finale de Coupe Davis est connu. Et il s'agira ni plus ni moins de l'Italie de Coboli et Berrettini, qui est déjà double tenante du titre. Cette demi-finale se jouera dès ce vendredi à Bologne. Pour poursuivre avec du tennis, Raphaël Collignon, lui, recevra dès l'an prochain son premier contrat ADEPS qui lui permettra d'être rémunéré en tant que sportif. Il fait partie des 14 Liégeois qui en recevront. Deux autres nouveaux s'ajoutent avec lui, comme Amandine Verstappen qui fait du motocross ou Barry Baltus qui a décroché la médaille de bronze en Moto2. Des habitués continueront, eux, à percevoir ce type de contrat comme Nafissa Toutiam.
Merci Tom, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Belle journée à toutes et à tous sur 48 FM.